Essayons de comprendre comment l'éthique religieuse, c'est-à-dire ce développement propre de l'éthique humaine vis-à-vis de l'homme considéré comme une créature, comment cette découverte en profondeur de l'homme dépendant à l'égard de Dieu, de son Créateur, développe en lui cette attitude d'adoration. Et l'adoration qui implique l'offrande de tout nous-mêmes pour glorifier Dieu va se prolonger dans un point de vue d'obéissance. Alors pour bien comprendre cela, l'obéissance, c'est, elle se fonde sur l'autorité. En éthique naturelle, où apparaît l'autorité? Elle apparaît au niveau de la famille. En éthique naturelle, je veux dire en éthique humaine. Elle apparaît au niveau de la famille. C'est donc l'autorité paternelle qui joue dans l'éducation. L'éducation, elle est faite pour permettre aux petits, progressivement, le développement de sa propre personne. Et c'est en vue du développement de sa personne que l'éducation se fait par l'acquisition des vertus. Toute éducation réclame une obéissance. Pas d'éducation sans obéissance. C'est sûr. Quand vous n'obéissez plus, il n'y a plus d'obéissance. Quand il n'y a plus d'obéissance, vous ne pouvez plus être éduqué. Il n'y a plus de coopération entre le père et son enfant. Donc, on peut dire que l'autorité au niveau proprement éthique, c'est d'abord l'autorité paternelle, l'autorité du père, l'autorité de la mère. Parallèlement à ça, obéissance de l'enfant. Autorité du maître, du pédagogue, du maître, obéissance du disciple. Donc ceci, c'est pour permettre l'éducation. Et ici, l'instruction. Il faut bien distinguer les deux. Et cette autorité-là est au niveau, cette obéissance-là est au niveau humain, elle apparaît dans la famille, puisque tant que l'enfant n'a pas la possibilité de se conduire lui-même, il est nécessairement tutelle. Il est sous un maître qui a autorité. Il y a des limites. À côté de cette autorité, il faut saisir les limites. Jusqu'où va l'autorité du père et l'autorité de la mère? Il faut que l'enfant soit capable de se conduire lui-même. Donc, le point de vue de l'acte prudentiel. Donne l'autonomie de la personne. Une fois que l'enfant a acquis sa personnalité morale par le point de vue de la prudence, il est libéré de l'autorité paternelle et de l'autorité maternelle. Il y a un changement. C'est bien. Il peut orienter sa vie, c'est pour ça que cette autorité du père et de la mère est limitée par rapport à la vocation, l'orientation profonde de l'enfant, qui est un acte personnel. Et avant cela, à quel moment y a-t-il vraiment un acte prudentiel? Tant que l'enfant demeure en dépendance de ses parents, au point de vue économique, il y a toujours une certaine tutelle. Ça, c'est sûr. L'autorité du disciple, c'est tant que le disciple n'a pas acquis la science qu'on lui enseigne, tant qu'il n'a pas acquis l'habitus. Par l'habitus, il aura l'autonomie. Ceci, c'est vrai dans l'ordre de l'instruction. Vous pourrez retrouver la même chose dans l'ordre de l'art. Le maître, au point de vue artistique. Tout ça représente le point de vue des diverses autorités. Qu'est-ce qu'il y a en plus? Pour Aristote, je dis pour Aristote, il y avait le problème de l'homme et de la femme dans le foyer. Donc, l'époux et l'épouse. Pour Aristote, l'épouse doit obéir à l'époux. Parce que pour Aristote, l'épouse est incapable d'acquérir la prudence. Vous voyez qu'on ne peut pas. Là, Aristote a exagéré. N'est-ce pas? Alors on est obligé de modifier, de transformer ce que dit Aristote. On ne peut pas répéter ça. Alors c'est tout un problème extrêmement difficile de voir quelle est l'autorité de l'époux à l'égard de l'épouse. Au plan philosophique. Je ne parle pas du sacrement. Parce que l'épître aux Éphésiens est assez particulière. Hein, c'est l'ancienne épître qu'on disait tout le temps dans tous les mariages. Et on voyait toutes les herméneutiques qu'on pouvait donner suivant qu'on avait affaire à tel ou tel milieu. Il fallait faire attention. Dire épouse, obéissez à votre époux comme l'Église obéit au Christ. Pas commode, hein. De voir que l'épouse était soumise. Ça, c'est un problème d'éthique chrétienne. Je parle au point de vue purement philosophique. Entre l'époux et l'épouse, il doit y avoir un amour d'amitié. Est-ce qu'entre amis, il y a une autorité? Entre amis, il y a l'autorité dans la mesure où on donne à l'ami l'autorité. Je vous donne cette responsabilité. Étant donné que dans ce domaine, je crois que c'est mieux. Donc c'est réciproque. L'épouse pourra, dans le domaine, dans tel ou tel domaine, s'imposer à l'époux. Et l'époux devra, s'il est intelligent, reconnaître que l'épouse a plus de compétences que lui dans ce domaine. Et donc se soumettra. Oui. Et dans d'autres domaines, l'épouse reconnaîtra que l'époux a plus de compétences et elle se soumettra. Dans l'amour d'amitié, il n'y a pas d'autorité qui s'impose. En dehors de ce que l'on reconnaît mutuellement. Autrement dit, on se donne mutuellement entre amis l'autorité. Un ami plus âgé à l'égard d'un ami plus jeune diras, tu as plus d'expérience que moi dans ce domaine-là, j'agirai comme tu le diras. Vous voyez ? Donc, au sens strict, il n'y a pas d'autorité entre amis. Donc, entre époux et épouse, puisque de fait, c'est un amour d'amitié, au sens strict, il n'y a pas d'autorité. C'est très beau, du reste, à bien comprendre ça. Mais il peut y avoir, dans certains domaines, des compétences plus grandes. Ce qui se fait que l'autorité devrait être reconnue, mais elle n'est pas toujours reconnue. Et puis, de fait, il peut très bien se faire que dans certains, on ne peut pas nier qu'entre l'amour de l'époux et de l'épouse, de temps en temps, on a affaire à des époux incapables de prudence, et on a affaire à des épouses extraordinairement prudentes. C'est un fait. Si l'époux est intelligent, il reconnaîtra que son épouse est beaucoup plus prudente que lui et lui remettra les rênes du gouvernement. C'est pas toujours commode, parce que l'époux devra abdiquer ce que, selon une certaine civilisation et convenance, on croit que l'homme a plus d'autorité que la femme. Je sais bien que ça diminue aujourd'hui. Et on n'a pas encore une présidente de la République femme, c'est dommage. Parce qu'elle serait peut-être mieux. J'ai oublié de faire ça, j'ai oublié de dire, de présenter une présidente de la République, quelqu'un de très bien. Alors il y a un succès monstre en France, elle serait passée, je suis persuadé. Pouvoir de séduction merveilleux. On n'y pense pas. C'est peut-être comme ça qu'on sortira de l'impasse. Oui. C'est la question de l'autorité personnelle et de l'autorité communautaire. C'est très curieux, ces choses-là. C'est très intéressant. Raymond, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus. On a essayé. Parce que le cours était sur la femme et l'homme et la femme. Donc, il fallait réfléchir sur est-ce que l'amour d'amitié implique l'autorité? Non. Au point de vue éducation, vous voyez, l'autorité, elle est la coopération des deux. C'est la coopération des deux. C'est pas seulement l'homme. C'est pas seulement le père. C'est le père et la mère. Donc c'est la coopération des deux. Et la mère doit agir toujours au nom du père et le père au nom de la mère. Tout en étant chacun avec leurs propres compétences. Donc il y a une coopération ici. Qui est très importante. Oui, comme dans l'enseignement, il peut y avoir des coopérations entre le maître qui enseigne et les assistants. C'est complexe, c'est pas simple. Mais ce qui est important à voir, c'est que, de fait, il n'y a que ces deux autorités au niveau purement familial. Donc, au point de vue éthique, humaine, ce sont les deux autorités qu'on reconnaît. On pourra se demander, au point de vue politique, s'il y a d'autres autorités dans l'ordre du travail, il y a des responsabilités diverses. Et donc un chef d'entreprise a nécessairement une autorité. Donc troisième type d'autorité. Le chef d'entreprise avec tous les cadres et puis ceux qui obéissent, les travailleurs. Autrement dit, on retrouve ce qu'Aristote disait entre le maître et l'esclave, peu importe les noms et les catégories. C'est toujours l'autorité dans l'ordre du facere. Dans l'ordre de la coopération dans le facere. Dans l'ordre du travail. Le travail implique nécessairement un point de vue de responsable et d'exécutant. Responsable et multiple exécutant. Là, une multiple. C'est très curieux. Marquez qu'il pourrait y avoir un seul exécutant. À la cuisine, il peut y avoir un responsable et un gars de sauce qui exécute et qui n'a pas le droit de goûter la sauce. C'est le responsable qui la goûte. Puisqu'il est responsable. Vous voyez, c'est donc lui le responsable de l'œuvre à réaliser. Est-ce qu'il y a encore une autre autorité? Quatrième autorité. Chef d'État. Le chef d'État a une autorité à l'égard des citoyens. Et cinquième autorité. Cinquième type d'autorité, au point de vue de la défense, l'armée, le militaire, donc le général, autorité sur la troupe. On pourrait distinguer là, hein, on pourrait distinguer les différents aspects de l'aspect de ceux qui sont responsables de l'ordre interne et externe d'un pays. Mais c'est une autorité déléguée du chef d'État. Donc, en coopération avec le chef d'État. Mais il y a bien un mode particulier d'exécution. Et c'est quand même une autorité en délégation. Comme on pourra comprendre que le chef d'entreprise pourra dépendre plus ou moins de l'État. Et c'est très curieux. C'est des autorités qui peuvent être déléguées. Tandis que le père et la mère, non. Ne peuvent pas être délégués par le chef d'État. Le maître, non plus. Normalement, il y a une autonomie beaucoup plus grande. Tandis que le point de vue chef d'entreprise et l'armée, ça peut être dépendant. Y a-t-il d'autres autorités? Parce que chaque fois, il y a une obéissance particulière. Est-ce que vous voyez une autre autorité? Dans l'ordre temporel, dans l'ordre de l'éthique humaine et aspect politique. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres autorités. Donc, cinq modes d'autorité. Modalité d'autorité. Oui. Oui, mais alors c'est des intermédiaires. Vous voyez, c'est dans. Comme on peut avoir des intermédiaires en quantité dans l'armée, c'est intermédiaire. Et des diversités. Vous voyez, je pourrais distinguer dans l'armée, vous voyez. Alors ça dépend beaucoup plus immédiatement du chef d'État. L'ordre interne du pays, où je demande à la police interne de s'occuper de l'ordre de l'armée, et puis le point de vue externe, l'armée défensive et intérieure. Oui, des distinctions internes, exactement comme je peux, au point de vue entreprise, distinguer différents intermédiaires. Ça ne change pas le caractère propre de cette autorité, ça donne des modalités différentes. Quand dans le jeu. Je ne crois pas que le jeu implique-t-il une autorité particulière. Je mettrais dans l'ordre artistique, alors. Et le jeu peut se dépendre lors de la détente, ou bien lors, dans l'ordre civique, l'éducation qui peut impliquer un certain gymnastique. Certains, vous voyez, c'est des autorités intermédiaires. Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose de particulier. Oui, mais non, c'est le chef d'entreprise. Vous voyez, l'autorité. Oui, c'est le chef d'État, moi je mettrais à l'ordre international aussi. Vous voyez, l'autorité, ici, on parle de l'Europe. Mais c'est la même chose. C'est une autorité qui prend un point de vue plus ou moins grand, mais qui reste du même type. Parce que chacune de ces autorités est ordonnée à un bien. Ici, la personne humaine. Le maître, au point de vue du développement de l'intelligence. Ici, c'est la prudence, avant tout. Le point de vue artistique, donc c'est le point de vue de l'art, qui fait partie de la personne humaine. C'est pour ça que l'autorité du maître et l'autorité dépendent de l'autorité du père. Pas entièrement, puisque une fois que vous aurez acquis une certaine autonomie, vous pourrez vous développer indépendamment de la famille vis-à-vis de la connaissance, la science, la sagesse qui dépasse. Ici, c'est la question du chef d'entreprise avec tous les niveaux différents. Mais c'est point de vue de ce qui est nécessaire ou bien utile, et bien utile au développement du bien vivre. La survie ou le bien vivre. Le tas, c'est aussi, alors, le bien commun, beaucoup plus universel. Et l'État peut être à des niveaux différents. Ce sera toujours la même chose. Quand vous voulez faire l'Europe, est-ce que vous ajoutez un nouveau bien commun? Non. Simplement dans la manière de gouverner. Parce qu'on dit actuellement l'économie est mondiale, il faut donc que l'aspect politique soit mondial. Ce qui est assez juste. Oui, si l'économie est mondiale sans une politique mondiale, c'est très dangereux. Parce que l'économie qui apportera des impératifs économiques sans avoir rien au-dessus. Ce sont les impératifs économiques qui passeront au-dessus. Donc il faut au moins un Parlement européen et il faut au moins un Parlement mondial, international. C'est la même chose pour la défense, les armes de défense. Mais qui ne sont plus uniquement à un niveau d'État, un niveau beaucoup plus grand. Mais ça reste la même chose, au point de vue finalité. Vous voyez, la finalité de l'État ou la finalité d'un gouvernement européen reste la même finalité pour moi. C'est permettre à l'homme de pouvoir se développer vers un bien-être. Oui. L'assemblée, c'est des personnes. Que le pouvoir soit monarchique ou démocratique, ça revient tout à fait au même. Vous voyez, c'est quatre modalités de pouvoir, mais c'est la même finalité. C'est permettre à l'homme, du côté de la finalité, que je regarde la diversité des autorités. Parce que l'autorité est un service qui qui se distinguent en fonction de la finalité. Et de sorte que ça revient au même. La loi fait partie de l'autorité du chef d'État. Il a un pouvoir législatif. Et que, comme il décrète la loi, il se soumet à la loi. Il est soumis à la loi. Oui.
Alors, où est-ce que vous placez l'autorité religieuse ?
Après, je suis dans la éthique humaine. Exprès. C'est justement la question que je vais me dire après. Oui, vous devancez. Oui.
On peut réduire l'autorité du général à une autorité déléguée du chef d'État. Parce que le chef d'État, en France.
Dégueulez-vous. C'est, vous ne pouvez pas mettre au général une autorité extrinsèque, sauf quand dans sa conscience, il est obligé à ce moment-là. Alors, c'est un cas extrême, c'est pas le cas normal. Il peut se faire, et on l'a bien vu, dans certains cas, où de fait, l'autorité de ceux qui détiennent l'armée juge que ce qui est demandé par l'État est inique. En conscience, il faut un coup d'État. C'est toute la question du coup d'État. C'est toute la question de savoir dans quelle mesure n'importe quel citoyen peut, dans sa conscience, dire « je ne peux pas obéir » et « je n'obéis pas ». Et il peut aller jusqu'à tuer le tyran. Ça c'est, alors, oui, mais c'est... Ça, c'est autre chose, c'est les piquisés. À ce moment-là, vous vous donnez à vous-même une autorité sur tout l'État. Parce que vous jugez que l'État est inique. C'est le coup d'État. Oui, vous voyez, mais je ne le mets pas ici. Parce que c'est propre à tout citoyen, ça. C'est propre au général, c'est propre à n'importe qui, quelqu'un qui a une autorité. C'est propre au père de famille qui peut dire, mais il y a des lois iniques dans la famille, bien je m'érige. Quand on a voulu supprimer l'école libre, qu'est-ce qu'il y avait ? C'est tous les pères de famille qui se sont levés. Tous les Bretons. Bretons, les Vendéens sont venus en disant, non, non, n'acceptons pas. Oui, alors c'est, je ne mets pas ça dans l'autorité normale. C'est les piquis. Le médecin. C'est très vrai. Le médecin a une autorité. Et voyez, vous le mettez où ? Ici, sixièmement. Le médecin. Le médecin, pourquoi ? Parce qu'il y a un bien, la santé. Le médecin, et alors, celui qui obéit, hein, c'est le patient. Alors, jusqu'où va cette obéissance, hein ? Il y a un bien commun, la santé. Le médecin n'a d'autorité que dans la mesure où il est au service de la santé.
Oui. Si on considère la médecine comme un art, à ce moment-là, ça revient à...
Oui, mais c'est un art très particulier. Non, il ne dépend pas des artistes. Hein. Le médecin ne dépend. C'est ça, justement, que l'autorité du médecin est très particulière. Et on verra en vie religieuse. Oui.
Par exemple, un scientifique au niveau nucléaire.
Non. Le scientifique a une autorité au point de vue de la science. Pas des applications. Des applications chef d'État. Tandis que le médecin, lui, vous voyez, l'art et la science sont liés. Et le médecin pourra très bien, devant certaines lois iniques qui toucheraient le point de vue, s'ériger en disant, je ne peux pas accepter. Si le médecin avait plus le sens de l'autorité, devant certaines lois par rapport à l'avortement, ils se seraient tous ligués en disant nous faisons grève. Voilà, ils auraient le droit de grève. Le droit de grève, c'est un cas particulier. Vous voyez, il y a le droit de grève et le droit de tuer le tyran. Avant de tuer le tyran, il y a le droit de grève. Mais tuer le tyran, quelquefois, c'est un acte héroïque. C'est très difficile. Il y a eu des... au moment avec De Gaulle, il y a eu certains cas très très particuliers comme ça. Et je me souviens, je prêchais une retraite à des jeunes filles de 17-18 ans qui tous ont été très émus à ce moment-là. De la peine capitale à l'égard de quelqu'un qui, en conscience, jugeait qu'il devait s'ériger contre le tyran. Qui, dans le cas, était De Gaulle. Et alors, elles m'ont demandé, est-ce que vous ne pourriez pas, au milieu de la retraite, nous traiter de cette question-là? Alors, j'ai essayé, en théologie, de montrer ce que c'était. Je ne sais pas comment elles ont répété ça à leur père. J'ai reçu des lettres d'injures après. De ses pères qui me disaient, c'était à Versailles, alors, des lettres d'injures de pères qui me disaient, on vous a envoyé nos filles pour que vous leur prêchiez et que vous n'assiez pas un plaidoyer pour. Alors j'ai répondu, j'ai pas fait de plaidoyer. J'ai simplement rappelé parce qu'elles me posaient des questions. Si dans une retraite, on ne peut pas relever un cas de conscience, je trouve ça lamentable. C'est pas moi qui l'ai, c'est elles qui me l'ont demandé. Un cas de conscience. Est-ce que dans le cas de conscience, il peut s'arriver que... J'ai dit, je vais pas donner raison à l'un ou l'autre. Simplement rappeler qu'il y a un problème. Et il y a un problème. Si vous êtes incapable de le comprendre, vous n'êtes pas digne d'être père de famille. J'ai pas reçu de réponse. Parce qu'il faut comprendre, on doit éclairer les consciences. Et donc, au milieu d'une retraite, qu'on fasse une question disputée sur un problème qui était vécu par la France à ce moment-là, mais c'est normal, elles ont le droit de connaître. La foi n'est pas source d'obscurantisme. La foi doit éclairer. Et on doit, à côté de la foi, comprendre qu'il y a un problème politique qui se pose. C'est très important, ça, vous voyez, parce que c'est toujours la personne humaine qui domine. L'éthique est premièrement personnelle et non pas étatique. Si l'éthique était étatique en premier lieu, il n'y aurait jamais possibilité de dire « je dois supprimer le tyran ». Mais ça, c'est l'appel à l'épiquie personnelle, au-delà de la loi. Mais il n'y a pas d'autorité à ce moment-là propre. On pourrait se poser la question, vous voyez. Ce serait peut-être la septième autorité. L'autorité de la personne humaine qui, devant certaines lois iniques, dit « je ne peux pas ». Un abus de pouvoir. C'est l'autorité de l'État qui ne respecte pas la famille. Oui.
Mais tu veux répondre qu'ils ont une certaine responsabilité sur l'éducation de ceux qui font le pays demain.
Ils ont une certaine responsabilité et qui doit respecter la responsabilité des familles. Oui. L'État n'est pas premier dans la formation de la personne. C'est la différence entre un État totalitaire, de gauche ou de droite, et un État qui respecte la famille. L'éducation est remise à la famille, et non pas à l'État. L'État peut, dans des cas déficients, essayer d'aider et de soutenir, mais il ne peut pas prendre la place. important, ça. Oui.
L'opinion publique, parce que vous l'avez
dit. Alors, aucune autorité. Aucune autorité. L'opinion publique. Ça forme le conditionnement. Vous voyez, les masses médias. Elle n'a pas autorité. Dis-tu ça de toi-même ou un autre te l'a dit? Oui, ça fait partie des opinions, ça. L'opinion conditionne. Alors, peut arrêter l'exercice de l'autorité. Peut être un obstacle, mais elle n'a pas autorité. Vous voyez, quand quelqu'un s'élève et crée une opinion, c'est autre chose. Toute opinion publique repose sur quelqu'un qui d'abord ou a murmuré. Celui qui murmure n'a pas d'autorité. Il est de mauvaise humeur. Ou vraiment un cas de légitime défense. À ce moment-là, ce n'est pas l'opinion publique qui a l'autorité, mais c'est celui qui a créé cela. Oui, c'est la pointe. C'est pour ça que je vous dis, alors, on pourrait mettre septième autorité, et ce serait peut-être affaire au point de vue philosophique. La personne humaine, face aux lois iniques, face aux tyrans, face à certains problèmes qui ne sont plus. Alors la personne, à ce moment-là, s'érige en conscience. Vous voyez ? Légitime défense. Au-dessus de tout. C'est pas l'autorité du Père, c'est l'autorité de la personne humaine qui est celle qui finalise tout. Tout est finalisé par an. Donc normalement, tout est pour la personne humaine. Et si de fait, on attaque, alors c'est très délicat, vous comprenez, hein ? Ça ne veut pas d'aller trop vite. Parce qu'il faut voir toutes les conséquences que ça peut prendre. Et saint Thomas va très très loin dans ce domaine-là. Très très loin. C'est très intéressant. Je crois qu'il faudrait reprendre une étude de cela aujourd'hui. De voir dans quelle mesure une personne humaine peut s'ériger en arbitre. Donc ayant compétence. Oui.
Il y a un président du tribunal.
Les présidents du tribunal, c'est l'autorité, donc celui qui doit juger. Vous avez raison que la question du juge doit être autonome par rapport à l'État. Vous voyez, plus encore que l'armée. Parce que le juge regarde la personne humaine. Donc l'autorité du juge, du magistrat, le magistrat suprême, vous voyez, quand il n'y a plus rien qu'on appelle. C'est sûr que là, il y a une autorité très particulière. L'armée étant beaucoup plus du côté de l'exécution. Tandis que là, il y a un jugement. Et donc il y a une autorité. Un jugement propre. Sur le point de vue de la justice. Oui.
Je pense à l'équipe d'aviateurs qui était liée à Hiroshima.
Oui.
Je me dis, est-ce que par rapport à cette équipe qui a eu sûrement un problème de conscience, qui était quand même au courant de ce qui s'est passé, ce qui allait peut-être se passer,
oui.
Et par rapport aux gens qui aujourd'hui sont dans l'armée et occupent une position où ils n'ignorent pas qu'on appuie sur un bouton,
oui.
Ça peut être
très bien.
Oui. Est-ce que là, il y aurait une nouvelle éthique pour ces personnes éclaircir.
Je crois pas, je crois que c'est des situations limites. Mais c'est la même. C'est toujours les rapports entre l'État et le point de vue de défense ou le point de vue d'attaque. Vous voyez, les armes atomiques ou les armes modernes ou tout ça, mais augmente et intensifie le danger. Mais ça ne modifie pas la responsabilité humaine. Oui.
Donc ils avaient le droit de dire
Quoi?
Parce que, par exemple, l'aviateur qui était dans cet avion au chemin avait le droit de dire « je refuse ».
Ah oui, tout à fait.
Enfin, c'est des gens qui l'auraient dit, mais...
Je crois. Non, 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 non. Il y a toujours un droit humain. D'ailleurs, on l'a vu constamment. Si vous voyez, si on voyait les tics du punch en Algérie par rapport à De Gaulle, en conscience, ces hommes, moi j'ai suivi ça de très près. Et ça m'a beaucoup intéressé. Parce que c'était des choses qui étaient à cette époque-là qu'on devait essayer de dire. Et qu'il fallait, on en trouverait au Liban comme ça. Quand on vit une guerre, surtout des guerres intestines, mais qui sont commandées par autre chose, c'est très important de voir ça. Et là, on doit essayer, parce qu'on vous demande conseil. Je vous affirme, pendant la guerre, on demandait conseil. On était bien obligés. Et on n'avait pas le droit de dire « je suis religieux ». Non, je suis religieux et je ne m'engage pas pour mieux voir et vous éclairer. J'ai une responsabilité encore plus grande, puisqu'on a la responsabilité du juge. Ça, c'est religieux, tu vois. Oui. Le chef d'État, normalement, comme chef d'État a le droit, vous savez bien, le chef d'État, selon les constitutions françaises, il est chef de l'armée. Quoi ?
Il a donné l'exercice de l'autorité au général qui...
Normalement, il doit demander, et il doit considérer que, mais c'est très délicat du reste, c'est très difficile de savoir si au fond c'est normal ou pas. Principe de subsidiarité. Cas très difficiles, c'est des cas frontières, ça, qui sont très intéressants, parce que ça met mieux en lumière. Et je crois qu'on a abouti toujours à la même chose, c'est que le chef d'État a un contrôle, même plus qu'un contrôle, vis-à-vis de l'armée. C'est pour ça qu'on voit des choses désastreuses quelquefois quand le chef d'État, ne faisant pas assez attention, lie l'armée à son parti politique. C'est mes petits copains, quoi, du parti. Ce qui, à ce moment-là, vous voyez, devient contraire directement au bien de l'État et donc appelle directement une réaction violente en disant vous n'agissez plus politiquement, vous agissez selon votre parti.
Oui. Est-ce qu'on peut parler de l'autorité du peuple dans un vote ou un plébiscite?
Quoi? C'est toute la question du suffrage universel que vous mettez en cause là. Venez, moi je prends la personne humaine. C'est la personne humaine, c'est pas le. Il y a une autorité qui peut être désignée par le vote. C'est pas le vote qui lui donne l'autorité. Il faut bien qu'un État ait une autorité pour éviter un plus grand mal. Et vous pouvez vous servir politiquement du suffrage universel selon diverses modalités pour désigner qui est l'autorité. Et c'est pas le peuple qui donne l'autorité. Et c'est pas le suffrage universel qui donne l'autorité. L'autorité reste humaine. Vous voyez ? Alors on désigne par là. Toute autorité vient de Dieu. Alors ça, c'est un point de vue religieux. Un point de vue purement humain, je crois. Vous voyez qu'on aurait donc... Si je mettais ça, donc on mettrait 7. Parce que vous avez raison ici, 7... On mettrait 8 ici. Et j'aimerais presque mieux ça. 8, c'est extrinsèque. Je ne peux pas établir ça institutionnellement. Tandis que tout ça, on peut l'établir institutionnellement. Et vous voyez, c'est la mise en ordre. Ce c'est la mise en œuvre de toutes ces autorités que fait la philosophie politique. La philosophie politique, c'est mise en ordre de toutes ces autorités. Et l'ordre différent que je donne à ces autorités modifie le point de vue du gouvernement. C'est très curieux. Tellement l'autorité est une pièce maîtresse au point de vue politique. C'est sûr. Vous regarderiez la manière dont l'idéologie socialiste organise ses autorités. Une idéologie libérale organise ses autorités. Et une vraie philosophie politique